Labor Day aux États-Unis, la vraie campagne électorale commence. À cette époque, à la mi-juillet, le Parti démocrate était plongé dans la dépression face à la perspective de perdre les élections. Aujourd'hui, après le retrait de Joe Biden et l'engouement pour Kamala Harris, il convient de nuancer l'euphorie et de rester réaliste. L'effet Kamala. Ce que Harris a accompli, et ce n'est pas rien, c'est de remettre les démocrates dans une compétition où tout semblait indiquer qu'ils allaient perdre. Voici la moyenne des sondages au moment de l'annonce du retrait de Biden. Selon le compilateur de sondages 538, Trump avait une avance de 3,3 points. Et voici la moyenne des sondages au 1er septembre, selon le même compilateur. Maintenant, la situation est exactement inverse, et Harris devance Trump de 3,2 points. En réalité, les résultats pour Biden avant son retrait étaient encore pires qu'il n'y paraissait, car les élections aux États-Unis ne sont pas gagnées par celui qui obtient le plus de voix des électeurs, mais par celui qui remporte le collège électoral, qui se compose de 538 grands électeurs, fournis par chaque État en nombre égal à la somme de leurs représentants et sénateurs, plus trois électeurs correspondant au district de Columbia, et dans ce système, les républicains ont l'avantage, car ils gagnent dans plus d'États peu peuplés que les démocrates, et le collège électoral a un biais en faveur des États ruraux moins peuplés. Un système électoral favorable aux candidats républicains. Par conséquent, selon les calculs effectués par le fameux statisticien Nate Silver, le candidat présidentiel démocrate doit remporter environ 2,5 points de plus dans le vote populaire pour commencer à avoir plus de 50% de chances de gagner au collège électoral. Cela pourrait être pire, par exemple, Biden a gagné en 2020 avec 4,46 points d'avance, mais le biais du collège électoral cette année-là était assez supérieur, environ 3,5 points. En pratique, dans les 6 États qui ont décidé de l'élection, Biden a gagné par une marge beaucoup plus étroite. Concrètement, voici ses marges de victoire. Géorgie. 0,24%. Arizona. 0,31%. Wisconsin. 0,63%. Pennsylvanie. 1,16%. Nevada. 2,39%. Michigan. 2,78%. Perdre la Géorgie, l'Arizona et le Wisconsin auraient entraîné un match nul au collège électoral, qui aurait été résolu par la Chambre des représentants en faveur de Trump, car les États auraient voté par délégation, et les républicains auraient eu la majorité parmi elles. Si en plus de ces trois États, la Pennsylvanie avait voté pour Trump, Biden aurait perdu au collège électoral malgré une victoire de 3 points au vote populaire. Cela oblige donc les démocrates à gagner systématiquement le vote populaire, ce qu'ils ont fait lors de 7 des 8 dernières élections, lors des 4 dernières, de manière consécutive. En fait, nous pouvons voir que lors des 4 derniers cycles électoraux, le vote républicain s'est situé dans une fourchette très étroite, entre 45,7% en 2008 au minimum et 47,2% en 2012 au maximum, les résultats de Trump en 2016 et des 2020 se situant entre ces deux pourcentages. Les résultats démocrates se sont situés dans une fourchette un peu, mais pas beaucoup, plus large, de 48,2% pour Hillary Clinton en 2016 à 52,9% pour Obama en 2008, avec les résultats de 2012 et 2020 entre ces deux extrêmes. Un fait intéressant, les démocrates n'ont perdu au collège électoral que lorsque des tiers partis ont obtenu un pourcentage significatif de voix, comme ce fut le cas en 2000 et 2016. 5 millions de voix et 7 swing states. En résumé, la bonne nouvelle pour les démocrates est qu'il y a généralement plus d'électeurs américains qui les soutiennent que les républicains. La mauvaise, c'est qu'ils ont besoin d'environ 5 millions de voix supplémentaires pour espérer remporter les élections. Cela nous ramène au collège électoral, avec Biden hors de la course et les démocrates revigorés par l'arrivée de Harris, la carte revient au contour qu'elle avait en 2020, avec 43 États et le district de Columbia plus ou moins sécurisés pour les deux partis, et seulement 7 États en jeu, 3 dans le Midwest, Wisconsin, Michigan et Pennsylvanie, 2 dans le Sud, Géorgie et Caroline du Nord, et 2 dans le Sud-Ouest, Nevada et Arizona. Les démocrates commencent avec 226 votes électoraux et les républicains avec 219, comme on peut le voir en utilisant, par exemple, le simulateur du site web 270 TOWIN. Chacun des trois groupes d'États a des caractéristiques démographiques particulières, les trois États du Midwest ont de larges majorités blanches, de 73,4% en Pennsylvanie à 78,6% au Wisconsin, avec de petites minorités noires et hispaniques. En termes de niveau d'éducation, la Pennsylvanie est l'un des États où la proportion de la population avec un diplôme universitaire est élevée, un groupe qui tend à voter démocrate, tandis que le Michigan et le Wisconsin se trouvent en bas de l'échelle. Quant aux États du Sud en jeu, la Géorgie est un État composé à 50% de blancs, avec 30% d'électeurs noirs et le reste de latinos ou d'asiatiques, et elle se situe dans la moyenne nationale en termes de population diplômée, tandis que la Caroline du Nord est un État composé à 60% de blancs, avec 25% de noirs, et là encore, le reste de latinos ou d'asiatiques, également plus ou moins dans la moyenne nationale en termes de population diplômée, des 7 États en jeu, la Caroline du Nord est le seul où Trump a gagné en 2020. Enfin, le Nevada et l'Arizona sont des États également composés à 50% de blancs, mais cette fois 30% sont des latinos, le reste étant des électeurs noirs ou asiatiques, et leur pourcentage de diplômés universitaires sont inférieurs à la moyenne nationale, en particulier le Nevada, qui est l'un des États les plus bas dans le classement. L'enjeu du vote latino. Les sondages nous indiquent que ces 8 dernières années, le vote hispanique s'est déplacé vers les républicains, car un réalignement idéologique et éducatif commence à se produire. Les électeurs diplômés votent de plus en plus démocrates et les électeurs sans diplôme universitaire tendent à voter de plus en plus républicains. En outre, certains latinos conservateurs commencent à voter de plus en plus en fonction de leur idéologie plutôt que de leur origine. Comme il y a de nombreux latinos et noirs sans diplôme universitaire, cela érode les marges démocrates, en particulier dans le premier groupe, ce qui doit être compensé par des électeurs blancs diplômés. C'est une tendance qui peut être positive pour les démocrates en Pennsylvanie, mais négative dans les 5 autres États, en particulier au Nevada et en Arizona, où moins d'un tiers de la population est titulaire d'un diplôme universitaire et où la population hispanique est très élevée. C'est pourquoi Trump ne plaisantait pas lorsqu'il a déclaré, après avoir remporté les primaires républicaines de 2016 au Nevada, qu'il aimait les gens peu éduqués, les électeurs blancs sans diplôme universitaire sont le cœur de la coalition trumpiste. Kamala Harris, comme nous le montrent les sondages depuis qu'elle est la candidate démocrate, a réussi à stabiliser la carte, écartant des scénarios terrifiants où Trump devenait compétitif dans des États comme le Minnesota ou le New Hampshire. Mais le vrai travail commence maintenant, elle doit réussir à gagner dans les 6 États où Biden a remporté la victoire en 2020, et si possible, rendre la Caroline du Nord compétitive, alors que pour l'instant, et malgré sa remontée, Harris est toujours derrière Trump dans certains de ces États qui, en raison de leurs caractéristiques démographiques ou éducatives, sont des terrains difficiles pour une candidate démocrate. Harris a maintenant devant elle 2 mois de travail acharné pour tenter d'améliorer sa marge dans les sondages, avec peu d'occasions de confrontation directe avec Trump, il est probable qu'il n'y ait qu'un seul débat présidentiel, le 10 septembre, et avec l'inconvénient supplémentaire que les médias ont banalisé un candidat comme Trump, alors qu'il a tenté de renverser la démocratie américaine le 6 janvier 2021.